à la brève intervention que je dois faire à présent concerne ce que j'appellerais les modèles cosmogoniques dans la Kabbale théosophique et en particulier dans les modèles qui sont issus de l'école espagnole qui s'est constituée dont le représentant principal est un ouvrage qui porte le nom de Zohar, ou Livre de la Splendeur, à la fin du XIIIe siècle, dans l'Espagne du Nord. Auparavant, je voudrais rappeler que simplement très très brièvement, que dans un passé relativement récent, en l'histoire des sciences en Occident, ce type de doctrine théologique ou théosophique a joué un certain rôle dans l'élaboration dans le questionnement scientifique naissant en Occident 16e, 17e siècle, en particulier à travers des travaux de kabbalistes chrétiens et de leur lecture par des chercheurs, des physiciens. C'était le cas, par exemple, de Giordano Bruno et, un peu plus tard, d'Isaac Newton. Donc, la Kabbale n'est pas une doctrine, une forme de pensée ou de métaphysique totalement inconnue de l'histoire des sciences, puisqu'elle y a joué un certain rôle, en particulier, quand il s'agissait de passer d'un univers clos à un univers infini. On assiste aujourd'hui à une multiplication d'ouvrages publiés à gauche et à droite qui se consacrent à l'étude des liens formels ou conceptuels qui existeraient entre la conception théosophique de la mystique juive ou de la Kabbale, la tradition ésotérique du judaïsme, et les théories contemporaines de la cosmologie relative à l'origine de l'univers. De même, de nombreux sites sur Internet aborde cette question et multiplie les comparaisons, les rapprochements et suggère des points de convergence, parfois étonnants, souvent contestables, en tout cas en discussion. Nous n'aborderons pas cette littérature imprimée ou électronique, bien qu'elle émane en partie de chercheurs sérieux et d'universitaires connus. Nous laisserons également de côté les considérations historiques que j'ai évoquées très brièvement relatives aux évolutions doctrinales des systèmes de pensée élaborés par les kabbalistes, les mystiques juifs médiévaux, qui comprennent différentes écoles, différentes formes de modèles, pour nous concentrer essentiellement sur les aspects les plus formels et les plus généraux de la conception des kabbalistes relative à l'origine des choses. Ce n'est pas parce que nous entendons négliger ou minimiser l'étude des continuités et des ruptures, des jeux d'influence et des emprunts, mais pour les besoins propres au thème qui est soumis aujourd'hui à notre réflexion, il nous a semblé simplement préférable de consacrer le temps qui nous est imparti à exposer quelques traits généraux du cadre formel élaboré par les kabbalistes afin de donner une représentation la plus cohérente possible du commencement premier des processus primordiaux par lesquels les germes de l'univers, tels que nous le connaissons aujourd'hui, ont été semés. D'abord, rappelons peut-être une évidence, en tout cas une chose qu'il ne faut jamais perdre de vue, tout au long de notre étude de leurs écrits. Les kabbalistes sont les héritiers inventifs d'une tradition ésotérique qui remonte au judaïsme de la fin de l'Antiquité. Ils sont d'abord les exégètes du texte biblique. C'est en lui, dans le texte biblique, qu'ils trouvent ou retrouvent les concepts qu'ils reprennent et qu'ils réélaborent, et c'est de lui qu'ils extraient leurs grandes intuitions. Or, comme vous le savez, comme cela a été rappelé déjà auparavant, la Bible débute par un récit du commencement. Un récit du commencement qui n'est pas seulement un récit de création, d'ailleurs, puisque il y a, de fait, la présentation d'un ordre, d'un déroulement. Mais à la lecture ordinaire ou littérale du premier verset, et des suivants, du livre de la Genèse, le premier verset qu'on traduit rapidement, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », les kabbalistes opposent une approche que l'on pourra dire avec quelques... peut-être en osant la formule, que l'on peut dire une approche critique. En effet, le texte dit « au commencement ». Mais au commencement de quoi ? Se demandent les kabbalistes. Et Dieu dont il est question dans ce verset, qu'est-ce qu'il est ? Et qu'est-ce que ce ciel ? Et qu'est-ce que cette terre ? De plus, les kabbalistes, en dehors de ces questions, s'autorisent d'une particularité de la langue de la Bible, l'hébreu, dans laquelle le sujet des verbes au passé peut être elliptique. Et pour comprendre le verset, le premier verset de la Genèse, autrement que la compréhension qu'offre la traduction habituelle de ce premier verset. Et au lieu de dire au commencement Dieu créa le ciel et la terre, ils lisent, je vous passe l'hébreu pour aller plus vite, avec le commencement, il créa Dieu, d'où proviennent le ciel et la terre. D'où de nouvelles questions. À quoi renvoie ce « il » elliptique, auquel aucun sujet particulier ne semble être relié dans la syntaxe, et qui est ce Dieu créé, puisque, selon cette lecture, c'est le mot « Dieu » qui est le sujet du verbe « créer ». Et non, enfin, plutôt, le complément d'objet, c'est Dieu qui est créé. Que signifie donc les mots « créer » et « création » dans ce contexte, et que sont ces cieux et cette terre qui dérivent de ce Dieu ? Ce ne sont que quelques questions soulevées par ce type de lecture critique, ou pourrait-on dire métacritique, avancée par les kabbalistes. Je dirais mais simplement métacritique parce que nous sommes ici aux antipodes, bien entendu, vous l'avez compris, des méthodes de critique littéraire ou de la critique historique de la Bible. Les kabbalistes pratiquent un forçage du texte canonique afin de l'arracher à ce qui est pour eux les fausses évidences de la lecture naïve, afin de mettre le texte en état, de fournir la base d'une explication intelligible et formelle, en tout cas à leur époque, de la nature du monde et de son origine. Donc les réponses qu'ils fournissent aux questions qu'ils ont posées à partir de leur relecture métacritique du verset de la Genèse et des versets suivants du récit de la Genèse démolissent en fait de façon radicale et presque magique de l'origine des choses. Ainsi que le dit un kabbaliste espagnol du XVIe siècle, Simeon Labi, qui résume la pensée de ses prédécesseurs médiévaux espagnols, rien ne peut venir de rien, même si l'être procède d'un état de l'être appelé néant. Néant qui n'équivaut nullement à l'exclusion de l'être, mais à une situation où il n'est pas observable, mais seulement pensable, ou plutôt tout juste pensable. Car cette zone, cet état appelé néant, se situe à la limite du pensable. Et en fait, dans plusieurs énoncés, on retrouve la formule selon laquelle cet état primitif ou primordial porte le nom de néant tout simplement parce qu'on ne peut pas en dire plus, faute de pouvoir en dire quelque chose de positif. En fait, les kabbalistes médiévaux ont fait leur la formule hébraïque classique, Beria yesh me'ain, creatio ex nihilo en latin, en retournant sa signification. Du néant, qui est le contraire du rien, parce que ce néant, ce ain, est l'être en puissance, en attente, en suspension, l'être jaillit. Et cet être est la plénitude et la totalité comprimée en un point minuscule, en araméen du Zohar Nekuda Chada, de tout ce qui apparaîtra par la suite.
est l'entrée en matière initiale du processus de dissociation et de manifestation qui se prolongera par une série longue et développée de différenciation qui comprend schématiquement 10 étapes principales, 10 étapes de différenciation principale appelées les 10 séphirotes ou les 10 nombres. Ce point d'être primordial est ce qui est désigné dans la Genèse, donc dans le premier verset du livre de la Genèse, par justement le mot « Bereshit », au commencement. Comment alors entendre le mot « créé » ou « créa » bara? Pour entendre ce verbe, les kabbalistes recourent à l'étymologie pour arracher à ce terme son secret. La racine de ce verbe revient dans d'autres versets bibliques avec un sens très concret. C'est ce sens-là que les kabbalistes adoptent pour essayer de comprendre la signification du verbe bara traduit par créer. Ce verbe, dans d'autres passages de la Bible, signifie percer, fissurer, trouer. Le point d'être est une percée du néant, une sorte de fissure dans ce qui est appelé aussi l'air primordial. Et par cette trouée, cette fissure, s'échappe l'être. Il passe de son état primitif indifférencié, de sa cohérence chaotique impensable, c'est, si vous voulez, le tohu-bohu auquel fait allusion le second verset de la Genèse, à un état où il se relâche, se détend, se déploie et s'organise en une structure de plus en plus complexe. La toute première phase de ce relâchement, encore extrêmement ténue, est ce point primordial, le commencement. La deuxième phase, qui lui succède immédiatement, est proprement ce que le verset de la Genèse appelle Dieu, Elohim. Ce mot désigne donc, pour les kabbalistes, un moment du processus de déploiement de la substance et du cadre ontologique et spatio-temporel où toute chose se situe. Chacun des moments premiers de ce processus est aussi conservé dans tous les autres. Il est la source, par son expansion, du moment suivant, mais il n'est pas éliminé dans ses métamorphoses. Les kabbalistes ont donné à la notion d'émanation néoplatonicienne une pertinence ou une inscription temporelle. Les processus qu'ils décrivent évoluent dans un cadre temporel et non dans une éternité indépendante du temps. Mais le cadre temporel de ces processus, qui est l'héritage proprement biblique, n'a pas totalement évincé l'ontologie plutôt éternitaire du platoniste tardif. Ainsi, les passages d'une phase de l'expansion à l'autre, page toute, ne sont pas réversibles. Ils marquent une progression dans le temps de l'apparition de l'ordre des choses, la cosmogonie proprement dite. Mais chaque phase perdure aussi dans la suivante et jusqu'à la dernière d'entre elles, la dixième. Cet ordre primordial fournira ensuite le cadre et la substance des niveaux d'organisation inférieurs, du monde des anges, jusqu'au monde qui nous est familier. Ce qui intéresse particulièrement les kabbalistes, c'est de relever, dans l'univers hiérarchisé qu'ils décrivent, les éléments clés qui permettent de comprendre l'organisation de tous les mondes, les mondes les plus hauts, jusqu'au monde humain, et qui ouvrent la voie à des possibilités d'agir et d'interagir avec eux. Toutes les formes qui existent à un degré quelconque de cette hiérarchie existent aussi à un degré inférieur ou supérieur. Elles se correspondent et permettent un contact et une action les unes sur les autres. Donc, cette chose ou cette réalité, ce qui est appelé Dieu, se manifeste lors du processus d'extension du point primordial. Si celui-ci est identifié à la sagesse, en tant qu'elle rappelle la force organisatrice qui préside à l'acte de création dans la pensée biblique ancienne, je vais vous référer par exemple au chapitre 8 du livre des psaumes, l'étape suivante qui lui succède, c'est l'apparition de ce terme qu'on appelle Dieu, le premier verset de la Genèse, est identifié à l'intelligence suprême qui a construit et élaboré l'univers, étendu le ciel, d'après la même littérature religieuse, biblique, ancienne. Avec le néant, il faut mettre des guillemets au mot néant parce qu'il faut s'entendre sur ce qu'il signifie ici dans ce contexte, d'où tout a émergé, Ces trois premières expressions de la réalité portent le nom de tête. Tête parce qu'ils constituent la tête ou le début de l'univers, dont les autres étapes forment le corps ou le tronc. C'est donc dans cette structure que l'anthropomorphisme biblique trouve son explication aux yeux des kabbalistes, la forme du corps humain étant pour eux le paradigme et la répartition spatiale des 10 extensions du néant primordial appliqué à ce microcosme qui est l'individu humain. L'origine première de toute chose repose pour les kabbalistes de cette école théosophique médiévale dans un instant unique qui se situe au commencement du temps et de l'espace. Selon différents courants, le « il » en ellipse dans le premier verset de la Genèse, donc l'opérateur de cette création, au sens premier très précis donné par les kabbalistes à ce terme, c'est-à-dire la percée du néant et la formation d'un point de dimension infinitésimale qui est comparé par les kabbalistes souvent par une métaphore très répandue à la fine pointe d'une aiguille, désigne une instance suprême appelée Ein Sof ou infini, qui est l'impensable et l'insondable, situé au-delà même du néant. Cependant, plusieurs auteurs importants identifient pour moi simplement ce Ein Sof, cet infini au néant. D'autres l'en distinguent soigneusement. Controverse d'école que nous ne pouvons aborder maintenant, mais qu'il était important néanmoins de signaler. Comment le processus d'expansion, à partir du point primordial, et avant même son apparition, a été mis en branle. Un texte du Zohar, on peut le trouver au livre 1, folio 15a, décrit, en termes évidemment, on peut dire poétiques, comment une certaine violence s'est exercée au sein d'une région mystérieuse appelée Tehiru, que l'on peut traduire par transparence, brillance, qui était vide, dans un premier temps, de toute discontinuité, de toute trace, et qui a reçu le choc d'une flamme rigide, perçante, dit le texte, issu de l'infini. Choc constitué d'une série de coups répétés à partir duquel des signes, des marques contenant les essences primordiales de toute chose se sont formés. Comment ce processus s'est-il produit? Quelle en a été la cause initiale? Le Zohar ne dit rien de très précis à ce sujet. Cependant, et c'est là qu'on va introduire un modèle parallèle, et le mettre en connexion avec celui-ci, une autre conception développée également par les kabbalistes, qu'on dénomme du Tzimtzum, ou auto-contraction, ou rétraction primordiale de l'infini, apporte quelques éléments supplémentaires. Cette conception est assez complexe et difficile à résumer. Généralement, on la présente comme l'idée selon laquelle, pour qu'il y ait pu y avoir un univers, quel que soit le sens que l'on donne à ce terme, il était nécessaire qu'il y ait primitivement non pas une expansion, l'expansion d'une réalité subtile primordiale, comme celle du point suprême dans le Zohar, mais d'abord, préalablement, le retrait d'une plénitude infinie hors d'un espace déterminé. Ce retrait qui précède tout commencement a permis l'existence d'un lieu ou d'un espace vide, makom panoui. Vide qui doit être entendu ici, comme prend soin de le souligner un kabbaliste du XVIIIe siècle, non pas comme une absence pure et simple, un manque, auquel cas il aurait fallu employer un autre mot, le mot rec, mais comme une disponibilité, une tension vers quelque chose, un vide, non pas parce que quelque chose aurait été ôté, mais parce que rien n'y a encore été mis, un espace vierge, riche de tous les possibles. L'univers qui se constituera au sein de ce vide particulier procède d'une trace de l'infini, d'un résidu infime laissé par l'infini lors de son retrait. Ce réchimou, résidu, occupe l'espace vide, faisant de ce vide même le vide le plus plein qui se puisse imaginer. C'est aussi un écart, ce vide, entre, d'une part, l'infini qui s'est retiré et l'infini qui est revenu immédiatement réoccuper le lieu qu'il venait d'abandonner à un bref instant furtif. Une sorte de résultante, la résultante d'une soustraction. l'infini moins l'infini laisse un reste qui n'est pas égal à rien, même s'il est presque rien, un vide qui contient en fait tout. La suite du processus ne nous intéresse pas ici directement. Le germe de ce qui est ayant été déposé par ce jeu d'aller-retour de l'infini. Il équivaut à un trou, halal, dans une plénitude cohérente et continue. L'univers, avec tous les mondes qu'il recèle et qui s'organise de façon de plus en plus complexe à mesure de l'extension progressive de l'impulsion initiale, se déploie, en fait, dans cette conception, au sein d'un petit trou creusé au sein même du Ein Sof, de l'infini. Pour que la nature du discours des kabbalistes concernant l'origine primordiale puisse être mieux appréhendée, nous avons choisi de restituer quelques textes importants qui décrivent ce Tzimtzum ou retrait primordial de Ein Sof. Je retiendrai essentiellement un ou deux textes parmi de nombreux pour donner une idée du discours, de la façon de présenter l'origine primordiale des kabbalistes. Un texte de Chaim Vital qui écrit donc à sa fête au début du XVIIe siècle, à la fin du XVIe, et où il donne une des formulations de ce Tzimtzum. Alors, je vous lis le texte rapidement. Quand l'émanateur suprême désira créer le monde matériel, il contracta sa présence. À l'origine, Ein Sof remplissait tout. Maintenant encore, même une pierre inanimée est illuminée par lui. Si tel n'était pas le cas, la pierre ne pourrait pas exister, elle se serait annihilée. La lumière du Ein Sof revêt enveloppe sur enveloppe. Au commencement de la création, quand le Ein Sof se retira de façon homogène dans toutes les directions, il laissa un vide au centre. Centre qui se trouva entouré de tous côtés par la lumière du Ein Sof, mais évacué en son milieu même. La lumière s'en était retirée comme l'eau dans un bassin frappée par une pierre. Quand on laisse tomber une pierre dans un bassin, l'eau à cet endroit ne disparaît pas. Elle se mêle au flot alentour. De la même manière, la lumière contractée convergea à l'extérieur et un vide demeura au centre. Alors, toute l'opacité, toute la densité du jugement, donc c'est la force de restriction, la puissance du retrait lui-même, furent extraites du sein de la lumière du Ein Sof, telle une goutte dans l'océan. Descendant dans le vide, celui-ci se métamorphosa en une masse amorphe, entourée dans toutes les directions par la lumière du Ein Sof. À partir de cette masse, quatre mondes émanèrent, émanation, création, formation, fabrication. Par son pur désir d'accomplir son intention initiale, l'émanateur illumina la masse d'un rayon de la lumière qui s'était retiré auparavant, mais non avec la totalité de cette lumière, parce que si elle était entièrement revenue, l'état originel aurait été restauré, ce qui n'était pas l'intention. Pour façonner une poterie, le potier prend d'abord une masse d'argile sans forme, puis met les mains dans la masse pour la configurer. Ainsi, l'émanateur suprême mit sa main au sein de la masse amorphe, à savoir le rayon de lumière revenu d'en haut. À mesure que cette lumière commença à pénétrer la masse, des vases, des réceptacles se formèrent. À partir de la lumière la plus subtile, vint d'abord Keter, la couronne, ensuite Chorma, la sagesse, puis Bina, l'intelligence, et ainsi de suite, jusqu'à la dixième Séphira. Comme Keter, donc la couronne, était le plus pur et le plus simple des vases, il put supporter la lumière qui le pénétra. Mais la sagesse et l'intelligence, bien que plus transparents que les séphirotes inférieurs, ne l'étaient pas autant que la couronne, Keter. N'ayant pas sa capacité, leur dos se brisa et ils tombèrent de leur position. Quand la lumière descendit plus avant, six points apparurent, six fragments de ce qui avait été un point de lumière. Alors les vases se fracassèrent, leur essence spirituelle, la lumière, remonta dans la matrice de la mer, tandis que les vases brisés tombèrent dans le monde de la création. Quand la lumière émana une fois encore, régénérée à nouveau, réparée, elle s'étendit seulement jusqu'au bout du monde de l'émanation. Le mot émanation désigne cette expansion de la lumière du Ein Sof pendant le temps de la régénération. L'émanation comporte cinq figures. Celles-ci sont des réélaborations des points de lumière capables maintenant de recevoir la lumière, de telle sorte qu'aucune brisure ne survienne comme au début. Sous ces figures ou configurations, la lumière du Ein Sof apparaît seulement comme à travers un écran, comme lorsque tu t'assieds dans un lieu ombragé, bien que la lumière du soleil ne brille pas directement sur toi, elle illumine l'espace ombragé alentour. De la même façon, la lumière du Ein Sof illumine le monde de la création à travers un écran indirectement. Donc, pour résumer brièvement, ou pour donner une idée de ce que, pour les kabbalistes, pourrait constituer l'origine primordiale de l'univers, on peut considérer que, contrairement aux versions classiques des religieuses, Dieu se constitue dans un premier temps lors des degrés initiaux de l'expansion à partir du point primordial. Je crois qu'il ne faut pas confondre le Ein Sof, ce que les kabbalistes appellent l'infini, qu'ils identifient parfois au néant selon les écoles, avec Dieu, purement et simplement, puisque Dieu ne peut désigner que ce qui a un sens pour l'homme, en tant qu'il aurait une figure, une histoire, qu'il serait appréhendé à travers les dogmes d'une religion ou des sentiments personnels. Ce Dieu-là, le Dieu des croyances, pour les kabbalistes, est un Dieu qui s'est, en quelque sorte, qui est advenu à un certain moment ou à travers ce processus d'émanation. Mais il ne le précède pas. Il en est le fruit. C'est pourquoi la création, en tout cas pour les kabbalistes, ne désigne pas un saut, une rupture entre un état inconnaissable et quelque chose qui va être le commencement. Il n'y a pas une discontinuité, mais un mouvement continu de transformation qui n'est pas d'ailleurs, comme un passage du texte qu'on vient de lire, qui n'est pas sans, parfois sans drame, sans secousse, mais processus de transformation qui fait que on peut considérer que il y a fondamentalement depuis le moindre caillou de notre univers jusqu'au premier point d'émergence de l'être primordial, une continuité sans solution où se sont transformés la substance des choses s'est transformée jusqu'à aboutir à ce qu'elle est devenue maintenant. Maintenant, je n'ai extrait ici qu'un tout petit fragment d'une immense littérature. J'ai choisi ces textes-là de façon un peu arbitraire. Je ne prétends pas du tout épuiser le sujet, mais simplement donner une autre... permettre, en tout cas, de savoir qu'il existe d'autres lectures du texte biblique que celles auxquelles nous sommes habitués à travers les traductions auxquelles nous accédons ordinairement.
Merci. Oui.